L'histoire de chaque famille juive constitue en soi une petite épopée, une odyssée en miniature. Aaron Appelfeld écrit dans ses essais à la première personne, je le cite, « La famille, c'est l'histoire du peuple juif en miniature. Un récit éclaté à travers des lieux multiples. » L'ouvrage que je vous présente aujourd'hui, « Une famille juive avant la tempête », retrace l'histoire d'une famille juive française, de sa culture, culture juive, et surtout des quelques mois, à peine deux années, qui séparent le début de cet ouvrage de la Seconde Guerre mondiale. Une famille juive avant la tempête est un ouvrage écrit par Mireille Provençal, publié aux éditions Jourdan et qui est paru en 2022. À partir d'archives familiales, Mireille Provençal dresse le tableau intime de sa famille juive, la famille Lippmann, dans les années donc de l'immédiate avant-guerre, entre 1938 et 1940. Une famille bourgeoise, cultivée, politisée, intégrée dans la société niçoise, confrontée peu à peu à la montée de l'hitlérisme et à la menace de la guerre. On suit, au jour le jour, ses espoirs, ses illusions, ses craintes, la petite histoire de la vie quotidienne est ici insérée au plus près dans l'histoire de France et de l'Europe. Malgré le déni de leur judéité, ses membres seront rattrapés par les orages de la maladie, de la mort, de la guerre. Le sentiment d'être à l'abri au cœur même de la catastrophe dépasse le cadre historique de cette famille et ouvre une réflexion plus large sur l'histoire des Israélites français avant et au début de la Seconde Guerre mondiale. L'auteur, Mireille Provençal Lippmann, née à Nice en 1946, descend d'une lignée paternelle juive d'origine lorraine. Son grand-père, Jean Lippmann, résistant, a été fusillé par les nazis. Et je voudrais, avant d'entrer dans cette famille juive avant la tempête, faire un bref résumé du premier ouvrage que Mireille Provençal a édité et qui nous fait voyager dans le temps, l'ouvrage s'intitulant « Du ghetto au maquis, 1705-1944 », qui est paru aux éditions Ovadia dans la collection « Histoire et destinée ». Dans cet ouvrage, Mireille Provençal situe le premier aïeul identifié de sa famille, Isaïe Serf Ullmann, né à Metz en 1705 et médecin sous le règne de Louis XV. Puis l'auteur suit les pérégrinations familiales dans la France révolutionnaire, puis au XIXe siècle, où la famille s'installe à Sarrebourg, toujours en Alsace-Moselle, jusqu'à la défaite de 1870, quand la famille Lippmann choisit la France et la République et élit domicile à Lyon, puis à Nice, avant de créer donc un maquis juif familial dans les Alpes du Sud entre 1943 et 1944. Comme le souligne la préfacière de l'ouvrage du ghetto au maquis, Colette Zitnitsky, Mireille Provençal a eu la chance d'avoir eu des ancêtres qui ont pris soin de laisser des traces de leur existence à leurs descendants. Fin de citation. Elle est donc également elle-même, Mireille Provençal, née coiffée, en quelque sorte, puisque son père, Claude Lippmann, lui a légué une somme considérable de documents, actes notariés, lettres, cartes postales, photographies, et le choix de l'iconographie qui figure dans ce « Du ghetto au maquis », le choix a dû être véritablement cornélien, on le sent. De plus, ayant vécu en France, et étant donc des Israélites français, comme on le disait alors, les traces de cette famille n'ont pas été systématiquement effacées, détruites, lors de la destruction des Juifs d'Europe centrale et orientale. Le livre en question, sur lequel je reviens en guise de rappel, parce qu'il est intimement lié à l'ouvrage présenté aujourd'hui, à la famille juive avant la tempête, le livre du ghetto au maquis se divise en trois parties, juif en Lorraine, de 1705 à 1870, puis de 1870 au début du XXe siècle, en France, et enfin, la partie intitulée « Entre engagement et marginalité, juif au XXe siècle, que reste-t-il de la judéité ?» Question qu'il est tout à fait pertinent de se poser pour la famille juive avant la tempête. À part le grand-père, Jean Lippmann, figure à la fois impressionnante et émouvante, deux personnages se détachent de l'ouvrage du ghetto au maquis. Elisabeth Lippmann, 1810-1879, épouse de Léon Lippmann, 1807-1874, tandis que lui occupe les fonctions prestigieuses de président de la communauté juive de Sarrebourg, puis de premier juif au conseil municipal de cette même ville, puis premier adjoint au maire, elle, Elisabeth, se consacre à tenir sa maisonnée en tenant des comptes très précis du ménage. Et là, on a un document absolument incroyable. On a ce petit carnet, ce petit journal intime, pas forcément intime sur le plan de l'intimité féminine, mais intime en ce que Elisabeth note très très scrupuleusement toutes les dépenses du ménage, jour après jour, et tout ce qui se passe dans la maisonnée. Le second personnage, haut en couleur, s'il en est, c'est Gustave Léon Jacob, le grand-père du grand-père, le grand-père de Jean Lippmann, le colonel à la jambe de bois, juif pratiquant et franc-maçon, combattant à la guerre de Crimée en 1855, le premier de la lignée à conjuguer une forte tradition patriotique au sentiment républicain. La problématique que Mireille Provençal pose d'emblée et qui va reparaître comme un véritable fil rouge dans l'ouvrage du jour, Une famille juive avant la tempête, la problématique posée donc dans Du ghetto au maquis est celle de la judéité, que ce soit lors des années d'intégration en Lorraine, à Metz, à Verdun, puis à Sarrebourg avec Léon et Elisabeth Lippmann, dans la France de la fête Dreyfus et bien sûr dans l'entre-deux-guerres. Des judéités multiples et complexes, la honte et la fierté d'être juif, écrit Mireille Provençal, certes caractéristiques de bien des familles juives, mais tout particulièrement de la famille Lippmann. Le patriotisme, par exemple, est vraiment un patriotisme à toute épreuve, puisque un fort sentiment de judéité, en même temps, va conduire le grand-père de l'auteur, Jean Lippmann, à créer un maquis, mais un maquis juif. Et en même temps, pour montrer un petit peu toute la complexité, une germanophilie assumée. Germanophilie, entendez-moi bien, un amour de la langue et de la culture allemande, bien évidemment. Il y a aussi un autre élément qu'on va retrouver dans la famille juive avant la tempête, bien sûr, c'est la recherche d'une sorte de marginalité. Autant les Lippmann sont extrêmement bien intégrés dans la société bourgeoise, et je dirais même juive, bourgeoise, niçoise, des années 30, autant ils aiment fuir cette société, cultiver une solitude originale, la montagne, l'alpinisme et autres contacts proches avec la nature, et également un grand amour de l'Europe, de cette Europe encore sans frontières, celle qu'affectionne également Stefan Zweig, et qu'on retrouve bien sûr dans Le Monde d'hier, cette possibilité de naviguer, si je puis dire, à pied en tout cas, dans cette Europe centrale, sans difficulté de passer les frontières et de s'en sentir un peu chez soi, un peu partout. L'engagement politique, il ne s'agit pas exactement d'un véritable engagement, mais Jean Lippmann, donc je rappelle, le grand-père de l'auteur, Mireille Provençal Lippmann, lit la presse de gauche. Il est abonné à Marianne, un journal politique et littéraire orienté à gauche. Il est également abonné, plus original, à la Neue Presse, un journal yiddish d'obédience communiste, le yiddish, langue qu'il ne lit pas. Et puis, bien sûr, arrive la guerre, et son engagement dans la résistance dès janvier 1941, son adhésion au réseau Combat, où il va devenir, il va prendre le nom de résistance de commandant Lorrain. Lorrain est bien sûr un clin d'œil, enfin plus qu'un clin d'œil, vraiment un sentiment de retour aux sources familiales, ces sources lorraines, ces sources messines, qu'il ne renie pas. Alors, j'en viens donc à l'ouvrage du jour, donc le tout dernier écrit par Mireille Provençal sur une famille juive avant la tempête, c'est-à-dire sa famille juive avant la tempête. Et on peut dire que cet ouvrage est un hommage à sa grand-mère, grand-mère qu'elle n'a pas connue, Renée Lippmann, grand-mère décédée à l'âge de 51 ans, en 1940, des suites d'un cancer qui n'a jamais été soigné correctement, qu'on ne lui a jamais révélé. Avant la tempête, reprend et développe le récit dans le contexte des années de crise entre 1938 et 1940. L'ouvrage repose en fait sur plus de 200 lettres échangées entre Jean et René, choisies et commentées avec émotion par leur petite-fille Mireille Provençal. Je cite ici la préface de Jacques Fortineau. En 1938, René est âgé de 49 ans, Jean de 48, leurs quatre enfants, Jacques, Pierre, Claude le père de Mireille Provençal, et Eva, la seule fille de la fratrie, interviennent dans ce dialogue épistolaire. Jacques, l'aîné, y tient la place la plus importante. Il est né en 1915, il a été, écrit sa mère dans une des lettres, son petit compagnon d'une mère seule et inquiète pendant les années de guerre, puisque Jean Lippmann a combattu avec moult décorations pendant la Première Guerre mondiale. Il devient avocat en 1938, il s'engage dans une préparation militaire et se rapproche de son père. La conscience de la situation précaire de l'Europe n'est évidemment pas la même pour chaque personne de cette famille. On le sent très bien à travers les lettres, dont je citerai différents extraits, mais tous sont d'abord concernés par d'autres maux, M-A-U-X. Premièrement, la survenue du cancer de la grand-mère maternelle, Marguerite, dont l'état de santé ira en s'aggravant jusqu'à son décès en septembre 38, au moment même de la crise de Munich, une coïncidence pour le moins frappante, et se trouve ainsi mêlée à la fois la situation plus que fragile des démocraties européennes et l'évolution quasiment désespérée de la santé de Marguerite. Bien qu'elle en souffre déjà, on ignore encore la gravité de la maladie cancéreuse de Renée, qui disparaît, elle, en mai 1940, Renée, donc la grand-mère de l'auteur. Il est intéressant, poursuit le préfacier Jacques Fortineau, de mettre en parallèle la méconnaissance, voire le déni de la maladie de ces deux femmes par le corps médical, avec la méconnaissance, voire le déni de la situation internationale par les dirigeants des démocraties occidentales, au point que l'on peut, en lisant l'ensemble de ces lettres, se demander si le célèbre médecin Wertheimer, qui soignait la famille, étant lui-même un lointain cousin. Donc cette proximité entre le médecin Wertheimer et le Premier ministre Chamberlain qui développe les mêmes réassurances, l'un vis-à-vis de René, l'autre vis-à-vis des populations britanniques et françaises. À aucun moment, le mot de cancer n'est ni évoqué ni imaginé. Le corps médical parlera de névrite pour le cancer du sein de René et le confirmera jusqu'au bout. Comme nous le dit l'auteur, l'époque était au secret, même devant l'évidence du diagnostic en médecine comme en politique. L'intrication des questions de santé et des orages politiques est une partie de l'originalité de l'ouvrage de Mireille Provençal, alors même que sa famille, juive, semble méconnaître de façon frappante l'antisémitisme hitlérien. L'opinion de Paul Lippmann, le frère de Jean, qui se révèle admirateur du régime du Troisième Reich par anticommunisme forcené, évidemment intrigue le lecteur. On lira combien Jacques, le fils aîné, lucide, ne s'en laisse pas compter par cet oncle qui est honni pour ses idées. comme la société française, la famille donne le sentiment de danser sur un volcan, pour reprendre un commentaire de Jean Renoir à propos de son film « La règle du jeu ». Un commentaire d'ailleurs que Mireille Provençal met en exergue. Je le cite « On danse sur un volcan. On est à une époque où tout le monde ment. Les prospectus des pharmaciens, les gouvernements, le cinéma, la radio, les journaux. Alors pourquoi veux-tu que nous autres, les simples particuliers, on ne mente pas aussi ?» Jean Renoir, à propos de son film « La règle du jeu », 1939. Ceci d'ailleurs me renvoie, par association d'idées, à cet organe journalistique créé en 1938 par Pierre Dac, L'Os à moelle, auquel vous pouvez vous référer, vous lecteurs, puisqu'il en est paru il y a quelques années, dans la collection Bouquins, si je ne me trompe, un florilège tout à fait décapant, où Pierre Dac fait plus d'une fois allusion justement à ces mensonges éhontés, non seulement bien sûr les mensonges de Hitler, mais également les mensonges des démocraties elles-mêmes, qui se voilent la face. Dès le mois de mars 1938, lors de l'invasion de l'Autriche par les nazis, c'est René qui semble la plus sensible à la mouvante situation internationale. Elle pressent la gravité de ce qui apparaîtra plus tard comme un engrenage, alors que son mari, qui se veut rassurant, lui affirmera tout au long des échanges un éternel optimisme guerrier. Sensibilité d'une femme, affirmation virile de son homme. En septembre de cette même année, les deux époux vivent intensément mais différemment la crise de Munich, les craintes de René se heurtant aux certitudes de Jean. Après l'invasion des Sudètes, la nuit de cristal, en novembre, ne fera l'objet d'aucun commentaire, comme si la question juive était secondaire à leurs yeux. En 1939, la revendication d'Hitler sur le couloir de Danzig rappellera à tous les membres de la famille que si la guerre n'a pas éclaté avec Munich en 1938, ce n'est peut-être que partie remise. Mais le fatalisme l'emporte désormais. Il n'en sera évidemment plus de même à partir de septembre 1939, c'est la drôle de guerre, Jean est rappelé sous les drapeaux, probablement à sa demande. Jacques et Pierre y seront engagés. Claude poursuit ses études de médecine à Lyon. Pour René, la tristesse de sa solitude et ses douleurs croissantes l'emporteront sur la joie de savoir son mari et ses enfants en sécurité toute relative dans cette guerre qui ne dit pas son nom. Elle mourra avant la défaite et la captivité de son mari dans la seule compagnie de la jeune Eva, sa fille. C'est cet ultime réconfort que Mireille Provençal apportera à son tour une génération plus tard à sa tante Eva, mourante. Un acte qui souligne la passion pour la transmission des valeurs familiales dans cette famille française, comme les autres, peut-être point d'interrogation. La judéité familiale n'est que rarement évoquée dans les courriers, comme si l'intégration républicaine l'avait effacée. Et pourtant, la famille a transmis ses valeurs à Jacques, qui a séjourné en 1932 à Prague, dans une famille juive, chaleureuse et souvent évoquée depuis lors. Famille qui va disparaître, qui va être assassinée entièrement pendant la Shoah. Il y a découvert, en quelque sorte, ou redécouvert, sa judéité au contact des synagogues de cette ville. En juin 1938, parmi les traits d'humour qui émaillent le livre, Jacques s'amusera de son profil sémite dans son récit de voyage entre Paris et Poitiers, aux côtés non voulus de la secrétaire d'un colonel de la Luftwaffe en route vers l'Espagne. Cette reconnaissance de la judéité familiale dans sa génération, cette lucidité ne sont peut-être pas sans rapport avec l'amorce des temps terribles à venir. Il est vrai que Mireille Provençal propose de percevoir la trace inconsciente des origines juives familiales, malgré leur déni ou leur oubli, dans le mariage consanguin de Jean et René, une tradition endogamique séculaire, et dans la permanence de leur goût pour les pays germaniques, pour la langue allemande, la musique, les paysages du centre de l'Europe. C'est l'invasion allemande qui finira par révéler leur judaïté malgré eux. Claude sera chassé de l'université par les décrets de Pétain sur les Juifs. Jean et Jacques pourchassés comme résistants et comme Juifs. La famille crée un maquis, donc, dans les Alpes du Sud. Capturé, Jean sera fusillé. À la libération, Jacques se réclamera d'une résistance juive qui lui sera bien évidemment refusée, puisque, comme on le sait, on ne parlera pas de juifs résistants jusque dans les années 70 et même plus tard. Mais une famille juive avant la tempête est aussi le récit intime de la vie quotidienne d'une famille bourgeoise. Renée est une femme de son temps, soumise, intelligente, amatrice de réception mondaine, de parties de bridge. Jean est passionné de cheval, de sport alpestre et de menus gastronomiques dont il émaille tous ses courriers. Les deux époux manifestent les mêmes engagements politiques et sociaux qu'ils partagent avec leurs enfants. Alpinistes, ils gravissent le sommet du Pelvoux dans une excursion mémorable. Ils aiment la nature, les espaces, les randonnées et la vie sommaire dans une bergerie. Peut-on parler d'écologistes avant l'heure ? L'ardeur des sentiments amoureux entre les deux époux ne fait pas de doute, mais Jean révèle aussi progressivement une dimension qu'on pourrait qualifier, dit Jacques Fortino, une dimension quasi phobique à l'égard de la maladie de René. Ainsi, cette micro-histoire, cette histoire avec un petit H, peut-être illustrer l'histoire que Pérec nomme l'histoire avec sa grande hache, d'une période particulièrement houleuse de la France d'entre-deux-guerres, entre le Front populaire dans lequel Jean s'était engagé et le pacifisme guerrier, si on peut oser cet oxymore, dont finalement les hommes de cette famille sont les représentants. Nul doute que la référence discrète au judaïsme, ou plutôt le non-dit à ce sujet, est une dimension de ce texte. Il ne s'agit pas de refus de la religion des origines, mais d'une marque supplémentaire de l'intégration de cette famille dans la République. La guerre viendra rebattre les cartes sur ce point. Je n'ai pas voulu ici, au cours de cette émission, lire à voix haute les extraits de ces lettres, très souvent extrêmement émouvantes. Je vous laisse le soin de découvrir la famille Lippmann, car le texte est plein de photographies, également de documents, mais beaucoup de photographies. Donc la famille Lippmann, à travers les deux ouvrages que j'ai cités aujourd'hui, Du ghetto au maquis, 1705-1944, par Mireille Provençal, paru aux éditions Ovadia dans la collection Histoire et Destinée, et le tout nouveau, Une famille juive avant la tempête, aux éditions Jourdan.